troisième instruction. Je crois que la plus dure, c'est celle de 15h, non? C'est ce qu'on dit. Après la sieste, il faut se réveiller. Donc, eh bien là, on va vous parler de notre Seigneur. Après vous avoir parlé du bon Dieu. Après avoir parlé du péché. On va parler maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est encore un vaste sujet. Les sujets qu'on vous propose sont des sujets qui sont, dans l'ensemble, très étendus. Donc, c'est difficile en une heure, bien sûr, de tout vous dire. On ne peut pas épuiser le mystère de notre Seigneur en une heure, puisque toute l'éternité ne suffira pas à découvrir de nouveaux aspects en notre Seigneur. Au ciel, on contemplera Dieu, et en particulier, on contemplera notre Seigneur. Et toute l'éternité ne suffira pas à découvrir de nouveaux aspects en notre Seigneur. Quand on est... Je ne sais pas si c'était comme ça pour vous, mais quand j'étais petit, quand on pensait au ciel, on se disait, mais au ciel, on va s'ennuyer, quoi. Bon, une fois qu'on a vu le bon Dieu, bon, c'est très bien, on l'a vu, quoi. Mais non, au ciel, on ne s'ennuiera pas. Il y aura toujours de nouveaux aspects à découvrir. Donc, là aussi, c'est pareil. Donc, en parlant de notre Seigneur, c'est un sujet qui est un petit peu inépuisable. Donc, on ne peut pas tout vous dire sur notre Seigneur. Mais je pense qu'il y a deux aspects qui sont très importants pour la vie spirituelle. Et je voudrais vous donner un peu ces deux aspects sur notre Seigneur pour vous aider à mieux l'aimer, à mieux le connaître déjà, mieux l'aimer. Et puis ensuite, mieux comprendre aussi les épreuves de la vie spirituelle. Plus nous connaîtrons notre Seigneur, dans ce qu'il est, à la fois en tant qu'homme et en tant que Dieu, plus nous arriverons aussi à mieux comprendre les épreuves spirituelles que nous pouvons avoir dans notre vie, et plus nous pourrons aussi avoir des rapports, je dirais, justes avec notre Seigneur. Comme Monseigneur le disait à midi, à la lecture qu'on a entendue, le désir que nous avons dans une retraite, c'est de vous aider à vivre dans le réel, dans la réalité. Donc, plus nous vivrons dans la réalité, et plus on répondra à ce pourquoi on a été créé, donc plus on sera épanoui, heureux, et plus on pourra aussi progresser. Et comme il disait aussi, très souvent, on vit dans l'illusion. Alors, essayons de bien connaître notre Seigneur, c'est le but de cette instruction. En sachant qu'il va y avoir deux parties, donc dans l'instruction, deux parties qui sont complémentaires, qui pourraient paraître contradictoires, mais qui en fait sont complémentaires. Et les deux parties, la première partie, ce sera surtout notre Seigneur homme, que l'on verra, et la deuxième partie, notre Seigneur Dieu. Alors bien sûr, notre Seigneur est une seule personne, mais nous sommes obligés de diviser, parce que c'est notre nature humaine qui est ainsi faite, on ne peut pas étudier tous les aspects en même temps. Et alors, on va voir justement comment notre Seigneur, en tant qu'homme, est proche de nous, et comment, par conséquent, eh bien, notre Seigneur paraît accessible, notre Seigneur paraît à notre portée, en tant qu'homme. En tant qu'homme, on se comprend, puisqu'on est des hommes. Et on verra que notre Seigneur est vraiment homme. Et l'autre aspect, alors, c'est que notre Seigneur est Dieu. Et en tant que Dieu, il est infiniment loin de nous. D'une certaine manière, même en tant que Dieu, il est aussi présent en nous, quand on le reçoit dans la Sainte Communion. Mais quand je dis qu'il est loin, il est loin dans la mesure où nous sommes qu'une pauvre créature et lui reste le Créateur. Et donc il y aura toujours un fossé infini entre la créature et le Créateur. Donc notre Seigneur, en tant que Dieu, apparaît comme étant un être d'un certain côté, par un certain côté, mystérieux. C'est le mystère de Dieu. Et par conséquent, puisqu'il est mystérieux, en partie incompréhensible. Je ne dis pas inconnaissable, je dis incompréhensible. Notre Seigneur est connaissable, on peut le connaître, il s'est fait connaître à nous. Mais notre Seigneur, en tant que Dieu, quand on dit qu'il est incompréhensible, ça signifie que, justement, on n'arrivera jamais à le comprendre parfaitement, parce qu'il est infini et que nous sommes finis, nous sommes limités. Et donc, en tant que Dieu, on aura du mal à le comprendre parfaitement, et on aura du mal à comprendre aussi son agir, parce qu'on dit que l'agir suit l'être. Son être nous paraît en partie inaccessible, et son agir aussi nous paraîtra inaccessible. Et c'est pourquoi on pourrait être dérouté, je dirais, dans notre vie spirituelle parfois, parce que notre Seigneur va agir en tant que Dieu, et nous, on est des hommes, des pauvres humains. Quand notre Seigneur agit en tant qu'homme, on le comprend très bien, lorsqu'il agit en tant que Dieu, souvent, il nous déroute. Et alors là, je prendrai des exemples uniquement dans la Sainte Écriture pour vous montrer qu'on n'est pas les premiers, je dirais, à avoir été un peu décontenancés par l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis des hommes. On verra que les apôtres l'ont été très souvent, que Saint Joseph l'a été lui-même, et même la Sainte Vierge. Donc si la Sainte Vierge a parfois été déroutée et un peu surprise par l'attitude de son Fils, de notre Seigneur, eh bien ne soyons pas surpris quand on n'arrive pas à comprendre parfaitement le mystère de notre Seigneur. Si déjà la Sainte Vierge ne l'a pas compris, eh bien nous ne risquons pas nous-mêmes de le comprendre parfaitement. Et donc c'est très important dans la vie spirituelle de saisir cette transcendance de Dieu et cette transcendance de notre Seigneur. Donc voilà, donc c'est un peu le programme de cette instruction. Alors tout d'abord, premier aspect, donc, c'est que notre Seigneur est homme, et il est très important pour notre vie spirituelle de nous rappeler que notre Seigneur est homme, et en tant qu'homme, il a voulu, je dirais, apparaître proche de nous, et nous avons besoin de le contempler en tant qu'homme pour notre progrès spirituel. Donc l'humanité de notre Seigneur est le chemin qui doit nous aider à accéder à sa divinité. C'est là le plan de Dieu. Et cela répond tout simplement à la psychologie humaine. Les anges, eux, reçoivent leur information de Dieu. Ils reçoivent leurs informations d'en haut. On dit que les anges inférieurs sont éclairés par les anges supérieurs et les anges supérieurs sont éclairés directement par Dieu. Donc ils reçoivent leurs informations d'en haut. Mais l'homme, lui, il reçoit ses informations d'en bas. L'homme reçoit ses informations du monde sensible. Le monde intelligible n'est accessible à l'homme que par le sensible. L'homme a besoin de voir, de sentir, d'entendre. Pour que l'intelligence humaine se développe, il faut que nous puissions voir, sentir, entendre. Et donc on arrivera ensuite à arriver au spirituel et même jusqu'à Dieu, mais au départ, il faut que notre intelligence procède par les sens. C'est une loi psychologique. Il n'y a rien qui passe dans l'intelligence qui ne soit au préalable passé par nos sens. Prenez un bébé qui serait aveugle, sourd, muet, son intelligence ne pourra pas se développer. Le bébé, quand il grandit, au départ, ce sont ses sens extérieurs qui vont l'aider à rentrer en communication avec l'extérieur. Et ensuite, à partir de ses sens, son intelligence va se développer. Donc l'intelligence de l'homme se développe à partir au départ des sens extérieurs. Et c'est pour répondre donc à cette loi psychologique que le bon Dieu a voulu se faire homme. Tant que le bon Dieu ne s'était pas fait homme, le bon Dieu pouvait nous paraître bien lointain, bien inaccessible. Quand on l'a étudié, comme vous l'avez étudié ce matin, les perfections de Dieu, ça nous paraît... bien, c'est très beau, bien sûr, c'est magnifique, hein, mais ça paraît un peu inaccessible pour nous, en même partie. Donc l'humanité de notre Seigneur va nous rendre Dieu plus proche de nous. Et donc on a besoin de cette humanité au départ, donc hein, on va le développer ce point-là. C'est ce que dit Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila dit que pendant un certain temps, dans sa vie spirituelle, elle voulait arriver au but. Elle dit le but, c'est Dieu. Donc, elle cherchait à atteindre Dieu directement. Et elle ne pensait pas à l'humanité de notre Seigneur. Et elle dit ensuite qu'elle a estimé que c'était une erreur, et une grave erreur. Et donc, ensuite, elle conseillait à ses religieuses de méditer sur l'humanité de notre Seigneur pour pouvoir arriver à sa divinité. Donc je vous lis un passage qui est que j'emprunte à Don Marmion dans le Christ dans ses mystères. Le Christ est Dieu et homme, c'est ce que dit là maintenant pour l'instant Don Marmion. L'âme fidèle ne se contente pas de proclamer la divinité de Jésus, mais elle veut également honorer sa sainte humanité. Notre piété ne serait point parfaite, intégrale, si confessant la divinité du Christ, nous perdions de vue son humanité. Il y a des âmes qui croient mieux faire dans leur vie spirituelle de ne pas s'occuper de l'humanité du Christ, de ne contempler que sa divinité. Ce fut là, pendant un certain temps, l'erreur de sainte Thérèse. La grande contemplative a reconnu plus tard cette erreur. En quels termes amers elle l'a déplorée. Avec quelle vivacité elle a mis ses filles et par elles toutes les âmes en garde contre cette opinion qu'elle déclare erronée, dont elle ne se souvient jamais sans qu'elle soit saisie de douleur, car elle s'engageait dans une route détestable, et il lui semble s'être rendu coupable envers le Seigneur d'une très noire trahison. Donc tout ça c'est mis entre guillemets, donc c'est des citations en fait de sainte Thérèse. À vrai dire, c'était ignorance. Alors après, elle dit que la cause de ce désir d'arriver à Dieu directement, sans passer donc par le canal de l'humanité, a pour origine un petit manque d'humilité, c'est ce qu'elle dit. Un petit manque d'humilité si couvert et si caché qu'on ne l'aperçoit pas. Et après, elle dit encore, c'est un léger manque d'humilité de ne pas se contenter d'un objet si excellent que l'humanité de Jésus-Christ. Ce petit manque d'humilité qui ne paraît rien, nuit cependant beaucoup au progrès dans la contemplation. Un autre inconvénient de l'erreur que relève la sainte est de laisser l'âme sans appui. Nous ne sommes pas des anges, dit-elle, nous avons un corps. Au milieu des affaires, des persécutions, des épreuves, dans les temps de sécheresse, c'est un excellent ami que Jésus-Christ. Nous le voyons homme comme nous. Nous le contemplons dans l'infirmité, dans la souffrance. Étant homme, il nous est très avantageux, tant que nous sommes en cette vie, de considérer Dieu fait homme. Donc vous voyez que cette première partie que nous allons voir ne nous écarte pas de Dieu, bien au contraire. C'est le chemin par lequel le bon Dieu s'est fait connaître à nous, donc c'est le chemin par lequel aussi nous devons atteindre Dieu. C'est la conclusion que donne Don Marmion. Ne craignons pas, en lisant l'Évangile, en célébrant les mystères de Jésus, de contempler l'homme dans le Christ. Cette humanité est l'humanité d'un Dieu. Cet homme que nous voyons agir et vivre au milieu des hommes pour les attirer par les marques sensibles de son amour, c'est Dieu, notre Dieu. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler que notre Seigneur est vraiment homme. Et donc vous donner quelques exemples pris dans sa vie et qu'on retrouve dans l'Évangile, qui montre que notre Seigneur est vraiment homme. Eh bien, ce qui caractérise un homme, c'est qu'il a une intelligence humaine. Un homme est un animal raisonnable, donc il a une intelligence humaine. Donc notre Seigneur est Dieu, donc notre Seigneur avait une intelligence divine. Mais notre Seigneur, étant vraiment homme, avait aussi une intelligence humaine. Et cette intelligence humaine s'est développée humainement. Donc de la même manière que je vous disais tout à l'heure qu'on acquiert, notre intelligence se développe par nos sens, mais de la même manière, l'intelligence humaine de notre Seigneur s'est développée aussi par ses sens. Ainsi, notre Seigneur a pu progresser en connaissance. C'est-à-dire qu'il a pu apprendre humainement ce qu'il connaissait déjà divinement. Donc c'était un autre mode de connaissance. Notre Seigneur n'a, en quelque sorte, n'a rien appris de nouveau en tant que Dieu, puisqu'il connaissait tout, mais seulement il a appris humainement ce qu'il connaissait divinement. Et c'est ce qui explique que saint Luc dit qu'il grandissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc la Sainte Vierge a pu apprendre à lire à l'enfant Jésus. Alors qu'il savait lire parfaitement en tant que Dieu, c'est évident. Et donc il a pu apprendre certaines choses en tant qu'homme qu'il connaissait déjà en tant que Dieu. Ça c'est saint Luc chapitre 2 verset 52. Donc l'intelligence humaine a fonctionné humainement. Alors ensuite il avait aussi la science des anges, parce qu'il avait aussi la science infuse en particulier. Et il voyait aussi ce qui se passait à l'autre bout du monde. Donc il y a eu plusieurs, je dirais, façons d'apprendre. Donc, le Seigneur avait la connaissance en tant que Dieu, science divine, ensuite il avait la science angélique. Il avait aussi la science des saints, parce qu'il avait la vision béatifique. Le Seigneur voyait son Père face à face. Et il avait en plus donc la science humaine. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le dernier aspect, c'est notre Seigneur, avait donc une intelligence humaine. Ensuite, étant homme, il avait aussi une volonté humaine. Si l'homme a une intelligence, il a aussi une volonté. C'est les deux facultés spirituelles de l'homme. Donc notre Seigneur avait une volonté divine, mais il avait aussi une volonté humaine. Et c'est justement parce que notre Seigneur avait une volonté libre, humaine, qu'il a pu représenter les hommes sur la croix et qu'il a pu mériter pour nous la vie éternelle. Donc il avait une volonté libre. Et cette liberté est manifestée en particulier lorsqu'il dit « On ne m'enlève pas la vie, mais je la donne de moi-même selon le commandement de mon Père. » Donc c'est bien librement que notre Seigneur a offert sa vie pour nous. Et il nous montre aussi, par le bon usage qu'il a fait de son libre arbitre, que la liberté, ce n'est pas le choix de pouvoir faire le bien ou le mal, la liberté, c'est de pouvoir faire le bien. La liberté nous a été donnée pour faire le bien. Seulement le fait d'être libre, eh bien, n'exclut pas, hélas, au moins pour nous, la possibilité de faire le mal. Mais la liberté nous a été donnée pour qu'on dise oui à Dieu. C'est sûr. Donc notre Seigneur avait une intelligence humaine, une volonté humaine. Il avait aussi même des passions. Ça, c'est aussi important de se rappeler qu'un homme a des passions. Et nous sommes des hommes, nous avons des passions. Et les passions, en soi, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Une passion est bonne si elle est réglée. Elle est mauvaise si elle est déréglée. Alors malheureusement, nos passions sont souvent déréglées. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des fautes que nous commettons en raison de nos passions. Mais les passions, en soi, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Exemple de passion qu'a eu notre Seigneur, saint Thomas donc parle de 11 passions. Notre Seigneur a eu la crainte, par exemple. La crainte, c'est une passion. La crainte face au mal futur. La crainte, ça porte par rapport à un mal futur. Et bien, notre Seigneur a eu la crainte avant sa passion. On le voit dans saint Jean. Maintenant, mon être est en émoi. Mon être est en émoi. Donc, ça montrait cette crainte. Et que dire ? Père, préservez-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Donc là, on voyait en quelque sorte ce combat qui apparaissait entre cette sensibilité de notre Seigneur qui voulait naturellement refuser le mal, et ensuite sa volonté qui faisait qu'il dominait cette partie inférieure de son être pour se soumettre à la volonté de Dieu son Père. Donc saint Jean chapitre 12, verset 27. Il a eu la tristesse aussi, il a connu la tristesse, qui est encore une passion. Si la crainte regarde le mal futur, la tristesse regarde le mal présent. Le Seigneur dira, le jeudi saint, mon âme est triste à en mourir. Et donc ce n'est pas un langage hyperbolique, c'était vraiment une réalité. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 38. Il a même connu la colère. Il y a rarement des saints de colère. Hein. Souvent, parce que notre Seigneur s'est mis en colère une fois, on en profite pour se dire, ben, non. Il y a des saints de colère, mais une sainte colère, c'est une colère qui est maîtrisée. Et nos colères ne sont pas toujours maîtrisées. Donc il faut que les motifs soient justes, mais ensuite il faut que la colère soit proportionnée. Donc c'est pas toujours le cas, hélas. Donc, saint Marc, chapitre 11, versets 15 à 17. Alors, pourquoi vous parlez des passions à notre Seigneur ? Eh bien, tout simplement pour vous rappeler que, en tant qu'homme, donc, nous avons ces passions et que le but donc, de la vie spirituelle, c'est d'endiguer ces passions et non pas de les détruire. Les bouddhistes prétendent qu'il faut détruire nos passions et que l'idéal, c'est le nirvana, c'est le néant. Mais non, pour nous, notre idéal, c'est pas le néant, notre idéal, c'est l'être. Saint Marc, chapitre 11, versets 15 à 17. Notre idéal, c'est l'être, et par conséquent, pour arriver à l'être, on a besoin, justement, d'utiliser même nos passions. Saint Pascal disait, rien de grand ne se fait sans passion. Et on le sait bien nous-mêmes. Si on fait un travail sans être passionné par ce qu'on fait, on le fera peut-être avec moins d'énergie, moins de zèle, que si on est passionné par ce qu'on fait. Et on le transmettra moins bien. Ça. Donc, comprenons qu'il faut... faut endiguer nos passions, mais non pas les détruire. Et puis enfin, notre Seigneur a montré qu'il avait une nature humaine, même passible aussi, comme la nôtre, par les souffrances qu'il a souffert. La faim, la soif, la fatigue. La faim, donc c'était après 40 jours de jeûne. Quand il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 2. Sur la croix, il s'est crié « J'ai soif ». Saint Jean, chapitre 19, verset 28. La fatigue, parce qu'il a rencontré la Samaritaine. Jésus, fatigué du voyage, était assis à même sur le bord du puits. Fatigué du voyage. Ensuite, il a connu la souffrance physique, bien sûr, tout au long de sa passion, mais aussi la souffrance morale, les pleurs sur la ville de Jérusalem. C'est très touchant de voir notre Seigneur pleurer. Donc, Saint Luc, chapitre 19, versets 41-46, hein, ou encore à la mort de Lazare. Donc, c'est important de voir comment notre Seigneur est... apparaît proche de nous dans son humanité. Et il a même connu la souffrance spirituelle aussi. Ça paraît encore plus mystérieux. Dans la partie supérieure de son âme, notre Seigneur contemplait Dieu, même dans sa passion. Et pourtant, au même moment, dans la partie inférieure, eh bien là, c'était le trouble le plus total. Au point que notre Seigneur a pu s'écrier sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Alors bien sûr que, donc c'est Saint Matthieu chapitre 27, verset 46. Bien sûr que cet abandon du Père est tempéré ensuite quand on sait que c'est le premier verset d'un psaume et qu'à la suite du psaume, c'est un psaume de confiance. Bon, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» il a vraiment ressenti cet abandon de son Père dans la partie inférieure de son être, ça c'est clair. Et il a voulu par là, d'ailleurs, je pense, personnellement, connaître toutes les souffrances pour sanctifier nos souffrances. Et dans les souffrances spirituelles même, il a voulu endurer ces peines de la nuit de l'esprit que rencontrent même les mystiques pour sanctifier leurs propres souffrances. C'est la raison pour laquelle donc il a connu toutes ces souffrances dans ce qu'elles peuvent avoir de plus douloureux. Donc, la contemplation de l'humanité de notre Seigneur montre comment il est homme. Et c'est parce qu'il est homme qu'il a pu représenter les hommes, donc sur la croix, et qu'il a pu donc nous mériter le ciel et racheter nos péchés. Et c'est parce qu'il était Dieu que également ses actes avaient une valeur infinie, donc pouvaient être réparés en proportion de la faute. Mais également, on peut dire qu'il va y avoir un autre point maintenant qui va rapprocher notre Seigneur de nous, c'est sa miséricorde. Donc notre Seigneur, dans son humanité, va manifester en particulier sa miséricorde. Donc, c'est une grande leçon qui nous est donnée dans la contemplation de l'humanité de notre Seigneur. Bon, déjà, son incarnation, bien sûr, est une preuve de la miséricorde. C'est parce qu'il nous aime et qu'il s'est penché sur notre misère en venant prendre une nature humaine. Mais il est bon, je pense, de voir comment dans tout au long de l'Évangile, notre Seigneur nous montre essentiellement sa miséricorde. Et là, il ne faut pas séparer, je dirais, les instructions que vous recevez. Il faut se rappeler que notre Seigneur est Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, donc ce matin, comme vous l'avez vu ce matin. Et donc, voir comment cette miséricorde, ensuite, est infinie. Alors... La miséricorde, oui, je pense, l'attribut divin, en tout cas, qui rend le bon Dieu plus proche de nous, c'est sûr. Parce que miséricorde, c'est étymologiquement, ça signifie qu'il donne son cœur aux pauvres, miséricordare, qui donne son cœur aux pauvres. Et comme nous sommes tous pauvres par nous-mêmes, eh bien, notre Seigneur se penche sur nous pour nous aider à nous relever. Alors, je vais vous montrer tout d'abord par quelques paroles. Bon, j'ai glané comme ça, ça et là, hein, c'est pas exhaustif. C'est quelques exemples que je vous donne. Notre Seigneur qui nous dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Alors, je n'ai pas retrouvé la référence, mais bon, il faudrait que je fouille un peu plus. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Quand je serai élevé de terre, donc notre Seigneur pense, c'est juste avant sa passion qu'il prononce ces paroles, donc il veut dire quand il sera sur la croix, il attirera tout à lui, donc il ramènera les âmes vers lui. Saint Jean chapitre 12, verset 32. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Saint Jean chapitre 16, verset 33. Donc on voit comment notre Seigneur veut ici nous rappeler qu'il nous aime, qu'il a un amour personnel de chacun d'entre nous, et qu'il faut donc avoir confiance en lui. Le sentiment qui est rattaché à la miséricorde de Dieu, c'est le sentiment de confiance. Ensuite, ces paraboles. La parabole de la brebis perdue, par exemple, où notre Seigneur dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. » Saint Luc, chapitre 15, verset 7. Et c'est vrai que les prêtres eux-mêmes, je dirais, connaissent cette joie. Dans le ministère, lorsqu'on confesse, en particulier à la veille de grandes fêtes, donc quand on est plusieurs heures au confessionnal, il y a souvent au moins un gros poisson parmi. Eh bien, le gros poisson, c'est la grande consolation du prêtre. Bien sûr qu'il est content de voir tous ses fidèles se confesser régulièrement. Quand on entend une personne qui dit « ça fait 35 ans que je ne me suis pas confessé » ou « ça fait 70 ans que je ne me suis pas confessé », eh bien, c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi. Donc, il y a une joie spirituelle que le bon Dieu donne aux prêtres lorsqu'ils pêchent de gros poissons. Donc, ça m'aide à mieux comprendre la joie qu'il y a au ciel, si déjà sur la terre, donc, on s'en réjouit. C'est vrai que c'est très beau. Une âme qui revient à Dieu, c'est très, très beau. Et c'est loin de... d'être des cas isolés, hein, je vous assure. Je ne suis pas vieux comme prêtre, mais j'ai déjà vu beaucoup d'exemples très édifiants, très consolants. Et ça montre d'ailleurs que ce qu'on entendait ce matin à la lecture, qu'il faut éviter toujours la présomption de se croire qu'on est sauvé, parce que Judas, lui, croyait qu'il était sauvé, et puis après, bon, il a mal tourné, et puis Sainte-Marie-Madeleine, on aurait pu croire qu'elle était damnée, et puis en fait, elle est au ciel. Mais c'est vrai que dans le ministère, on rencontre cela. Le bon Dieu ramène qui il veut, quand il veut, comme il veut. Enfin, il y a la liberté de l'homme, toujours, hein, c'est assez clair. Mais il n'y a pas de situation désespérée, au moins tant qu'il y a de la vie. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai de la vie naturelle, mais c'est vrai de la vie surnaturelle aussi. Le bon Dieu ramène parfois des âmes qui reviennent de très 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 loin. Donc, ayons confiance. Oui, dans la puissance de la prière. Parce que c'est toujours lié à la prière, hein, c'est sûr. Quand les âmes reviennent, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont prié. Des personnes connues ou inconnues, proches ou éloignées, mais il y a toujours des gens qui ont prié. Et des gens qui sont sacrifiés aussi. Oui. Et parfois, c'est toute une vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Plusieurs fois. Ce n'est plus les confessions des veilles de grandes fêtes, c'est les confessions de la veille de la mort, où les gens donc, se convertissent sur leur lit de mort. Des épouses qui ont prié, qui ont pleuré toute leur vie pour le retour de leur mari, et puis la veille de la mort, ça y est, ils se sont convertis. Et après, c'est le mari qui pleure aussi. Hein. Il pleure d'avoir fait pleurer sa femme. Enfin, après, en général, ils pleurent toutes les deux, d'ailleurs. Ils pleurent toutes les deux. Mais c'est très touchant, c'est très touchant. Là, c'est un autre passage de l'Évangile auquel je pense quand je vois ça. C'est « Si vous ne redevenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Un homme qui se convertit sur son lit de mort, c'est un petit enfant. C'est vraiment magnifique. Il a ensuite la candeur de l'enfant, la simplicité de l'enfant. Et là aussi, il y a plusieurs cas que j'ai rencontrés, qui sont donc très consolants. Si un jeune prêtre vous dit ça, donc vous imaginez, donc, vu le nombre de prêtres qui existent, et le nombre... d'années que notre Seigneur a exercé sa miséricorde à travers les prêtres. Donc toutes les grâces qui sont obtenues. Donc ayez confiance si dans votre famille vous avez quelqu'un qui est à convertir. Mais il faut parfois donc être aussi très patient, vous voyez. Enfin, pour les plus jeunes, quand même, vaut mieux quand même essayer de faire en sorte de se marier avec quelqu'un qui a les mêmes convictions, donc avant le mariage, quoi. C'est un autre conseil, ça. La drague égarée. Autre parabole. Notre Seigneur dit, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Saint Luc, chapitre 15. Là, une faute de frappe, donc je ne sais pas. Vous trouverez le verset par vous-même. 10 peut-être. Je sais pas. Enfin, sinon, c'est les paraboles de Saint Luc. Dans le chapitre 15, il y en a 3. Et ensuite, la parabole de l'enfant prodigue, toujours dans ce même chapitre de Saint Luc. Donc, chapitre 15, versets 11 à 34, parabole que vous connaissez, qui montre encore la miséricorde de notre Seigneur. Ensuite, cette miséricorde va s'observer encore donc dans l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis des pécheurs. En particulier, l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis de la Samaritaine. Cet exemple est très beau. Donc, je pense que je vous remettrai une cassette de mon Seigneur où il développe un peu cet évangile, qui est l'un des plus beaux passages de l'évangile. Ce dialogue avec la Samaritaine. Ce passage est très beau parce qu'il nous montre un petit peu comment le bon Dieu touche une âme. Et il montre aussi les deux erreurs à éviter, donc dans l'attitude à avoir vis-à-vis des âmes. Notre Seigneur commence par dire à la Samaritaine, alors que les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Samaritains, « Donne-moi à boire ». Donc ça reste un niveau très naturel. Elle était en train de puiser de l'eau, « Donne-moi à boire ». Donc le premier contact, c'est un contact humain, naturel. Mais ensuite, petit à petit, notre Seigneur va l'élever au plan surnaturel. Et à la fin de la conversation, il va dire, va chercher ton mari. Et donc là, il va mettre le doigt sur la plaie. Je n'ai pas de mari. Tu fais bien dire que tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Et donc, en ce moment-là, elle va se convertir. Et donc, on voit bien que dans l'attitude vis-à-vis de la Samaritaine, il y avait 3 attitudes possibles. Soit de commencer par des reproches cinglants et elle ne se serait pas convertie, elle se serait entêtée en lui disant « Qu'est-ce qu'il a ? Il s'intéresse à ma vie, je fais ma vie. » Et donc, certainement que si notre Seigneur a été très dur avec elle, elle ne serait pas convertie, elle se serait butée. Si notre Seigneur s'était contenté du pot de l'amitié, on va prendre un verre ensemble, elle ne serait pas convertie non plus. Et donc, il y a eu un point de départ et un point d'arrivée. Et ensuite, notre Seigneur a eu la patience de l'élever petit à petit. Et bien, c'est comme cela que le bon Dieu touche les âmes et qu'il nous touche aussi, d'ailleurs, nous-mêmes. Donc, essayons d'éviter ces deux écueils. Oui. L'écueil du sectarisme, celui qui veut aller trop vite et qui, finalement, casse tout. L'écueil du libéralisme ou de l'écuménisme, de mauvais aloi. On se contente de prendre le verre de l'amitié avec les membres de toutes les fausses religions. En laissant croire que finalement ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur. Et puis l'attitude catholique qui consiste à savoir prendre les gens comme ils sont et ensuite savoir les faire évoluer petit à petit. Ensuite, autre exemple encore, l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis de la femme adultère. Donc là, bon, ce sera encore à développer. Je ne fais que citer parce que sinon ça n'en finirait pas, hein. Mais à la fin, donc, notre Seigneur lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Seulement, il ajoute quand même « Va et ne pêche plus. » Donc là, on voit comment notre Seigneur donc, accueille une âme, mais ensuite, il faut quand même qu'il y ait le ferme propos pour que notre Seigneur regrette, pour que notre Seigneur accepte donc, notre confession. Il faut que de notre côté, on prenne la résolution de faire des efforts pour ne plus retomber. Donc, Saint Jean, chapitre 8, verset 11. Donc l'action de Dieu ne supprime pas l'action de l'homme. Il faut que l'homme manifeste sa bonne volonté. Ensuite, les miracles encore sont aussi encore des preuves de la miséricorde de notre Seigneur. La guérison des 10 lépreux, par exemple, la lèpre étant une image du péché, notre Seigneur, en guérissant ces lépreux, veut montrer le désir qu'il a de guérir les âmes de la lèpre du péché. Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Ou encore lorsqu'il guérit le paralytique de Capharnaüm. Il commence par lui dire « Va, tes péchés te sont remis ». Alors, en ce moment-là, les pharisiens sont offusqués par une telle parole. Ils disent « Comment Dieu seul peut remettre les péchés ? Comment peut-il dire une chose pareille ?» Et notre Seigneur dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Donc, le miracle physique accompli par notre Seigneur a pour but de montrer le miracle spirituel qu'il vient d'opérer dans l'âme. Donc, quand notre Seigneur touche le corps, il touche en même temps l'âme. Saint Matthieu, chapitre 9, versets 6 à 8. Autre moment encore où l'on voit la miséricorde de notre Seigneur, c'est au moment de sa passion. En particulier, le soir de sa passion, où Saint Pierre va le trahir, Saint Pierre qui était trop sûr de lui, et qui finalement trahit son maître. Notre Seigneur va susciter en lui la contrition par un regard, un simple regard, un regard profond, un regard plein de doux reproches sans doute, mais en même temps aussi de miséricorde. Saint Pierre, on entend un coq, vous voyez, ça tombe bien, c'était programmé, c'est vrai. En entendant le chant du coq, Saint-Pierre se souvint de la prédiction de sa trahison et il pleura amèrement. Saint-Luc, chapitre 22, versets 61 à 62. C'est l'humour du bon Dieu, ça, vous voyez. Bon, je sais plus ce que j'allais dire maintenant. Ensuite, on va remarquer encore cette même miséricorde dans la contrition chez les femmes de Jérusalem. Saint Luc, chapitre 23, versets 28 et suivants. Ensuite, sur la croix, il va pardonner à ses bourreaux et ouvrir le ciel au bon larron. Donc c'est toujours le chapitre 23 de Saint Luc, versets 34 et versets 43. Donc là encore, on voit bien, au moment où notre Seigneur, donc on le fait souffrir, au moment même donc où nous-mêmes, on aurait peut-être le plus mal réagi, quand quelqu'un nous pique au vif, c'est le moment où on a tendance à sortir de nos gonds. Eh bien, notre Seigneur, au contraire, c'est le moment où il pardonne le plus. Alors il faut savoir aussi que ça, c'est pas naturel. C'est sûr que pouvoir pardonner les offenses qu'on nous fait, eh bien, face au mal, naturellement, on réagit mal. Pour réagir bien face au mal, il faut une grâce de Dieu. Donc il faut que le bon Dieu nous transforme pour que nous soyons capables, petit à petit, eh bien, d'arriver à ce pardon, à faire sortir de notre cœur toute aigreur face au mal. Tout sentiment d'animosité ou de désir de vengeance, ou de rancune. Mais il faut aussi le demander. Ensuite encore, on verra même cette miséricorde après la résurrection. Malgré donc la trahison de Saint-Pierre, malgré également le reniement de Saint-Pierre, malgré le fait que la plupart des apôtres ont abandonné notre Seigneur va leur apparaître, montrant par là le désir qu'il avait de les relever de leurs fautes. Alors ils vont peut-être aussi quand même leur reprocher au départ, c'est ce que fait notre Seigneur, lorsqu'il nous ramène dans le droit chemin, il nous reproche quand même notre conduite, lorsqu'on a mal agi. Donc il va reprocher en particulier le manque de foi des apôtres, parce que les apôtres, non seulement ils ont abandonné notre Seigneur, mais en plus ils n'ont pas cru les saintes femmes après la résurrection. Donc le Seigneur donc, va leur reprocher leur incrédulité, mais ensuite il va ranimer leur espérance. Et donc, il faut toujours avoir confiance, vous voyez, dans le désir que notre Seigneur a de nous relever après nos péchés. On le voit donc dans l'évangile de Saint Luc. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous constatez que j'en ai. Le Seigneur se laisse toucher. Et puis ensuite, et ce disant, il leur montre ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils se refusaient encore à croire et s'étonnaient, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Saint Luc, chapitre 24, versets 39 à 45. Notre Seigneur a cette condescendance d'élever les apôtres et de ranimer leur foi et leur espérance après leur chute qui a eu lieu au moment de la Passion. Et alors, ce qui est important maintenant pour nous de considérer, c'est que notre Seigneur ne change pas. Notre Seigneur étant Dieu, ne change pas. Donc les sentiments que notre Seigneur a eus il y a 2000 ans vis-à-vis de ses contemporains sont les sentiments qu'il a aujourd'hui vis-à-vis des hommes. Si notre Seigneur était miséricordieux vis-à-vis de ses contemporains, il reste miséricordieux vis-à-vis de nous. Donc pour savoir quelle est l'attitude, je dirais, que notre Seigneur a vis-à-vis de nous, il faut regarder l'attitude qu'il a eue vis-à-vis des âmes qu'il a côtoyées. Donc il faut avoir, c'est important d'avoir cette confiance dans l'amour que notre Seigneur nous porte. Et certainement que la vue des passages de l'Évangile sont pour nous une consolation, une source de réconfort. Et puis alors bien sûr, il faut aussi, comme on le verra mieux demain, savoir aussi recourir à notre Seigneur, en particulier à travers les sacrements. Si notre Seigneur veut exercer sa miséricorde, eh bien, il faut savoir recourir à cette miséricorde de notre Seigneur. Alors comment y recourir ? Par la prière, certes, mais aussi essentiellement par les sacrements. C'est par les sacrements que notre Seigneur exerce sa miséricorde, et surtout par le sacrement de pénitence. Enfin aussi par tous les sacrements, mais au départ, pour revenir vers Dieu, c'est le sacrement de pénitence. Après aussi, bien sûr, le sacrement de la Sainte Eucharistie est aussi un sacrement de miséricorde. Donc là, ce qui est important maintenant dans les sacrements, c'est de voir notre Seigneur à travers le prêtre. Voir que le contact qu'on aurait eu avec notre Seigneur il y a 2000 ans s'opère aujourd'hui à travers le prêtre. Donc il faut avoir ce regard de foi, dans les sacrements au moins, dans le prêtre. Le prêtre que nous voyons n'est qu'un instrument. C'est notre Seigneur qui confesse, c'est notre Seigneur qui absout, c'est notre Seigneur qui baptise, c'est notre Seigneur qui apaise les malades dans le sacrement de l'extrême onction. Ça aussi, c'est magnifique, les effets produits par le sacrement des malades, le sacrement d'extrême onction. Mais c'est notre Seigneur qui agit, aujourd'hui encore. Donc il faut recourir à cette miséricorde de notre Seigneur, donc en recourant au sacrement. Donc là, c'était l'humanité de notre Seigneur, et vous voyez, je suis trop bavard, mais on va maintenant, les quelques minutes qui nous restent, parler un petit peu quand même, parce que c'est un autre aspect très important dans la vie spirituelle, la transcendance de notre Seigneur. Donc maintenant, c'est l'aspect de la divinité de notre Seigneur, de voir que notre Seigneur, en tant que Dieu, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, va apparaître maintenant comme... un personnage un peu lointain et mystérieux. Et tout simplement parce qu'il est Dieu. C'est normal que le bon Dieu que notre Seigneur nous paraisse lointain sous un certain rapport, parce qu'il est Dieu. Si on arrivait à comprendre Dieu, eh bien, ou on serait Dieu, ou Dieu ne serait plus Dieu. Donc le bon Dieu étant ce qu'il est, nous ne pouvons pas le comprendre parfaitement. Et notre Seigneur étant Dieu, on ne peut pas le comprendre parfaitement. Alors essayons de regarder dans la Sainte Écriture quelques passages qui montrent maintenant alors le décalage qu'il va y avoir entre la pensée de notre Seigneur et la pensée des hommes. Pour comprendre aussi que notre Seigneur agit aujourd'hui encore vis-à-vis de nous comme il agissait il y a 2000 ans vis-à-vis des apôtres, vis-à-vis de la Sainte Vierge, vis-à-vis de Saint Joseph. Quelques exemples, tout d'abord les épreuves de la Sainte Famille. Par exemple, le silence de Dieu sur l'origine divine de l'enfant Jésus vis-à-vis de Saint Joseph. Saint Joseph voit la Sainte Vierge enceinte. Il ne sait pas d'où vient l'enfant. Nous, on se dit, c'était pas plus difficile au bon Dieu d'envoyer un ange un petit peu plus tôt pour éviter les troubles de Saint Joseph et de lui dire, l'enfant vient du Saint-Esprit. Rassurer Saint Joseph, donc de le rassurer tout de suite pour éviter de faire de la peine à Saint Joseph, le si bon Saint Joseph. Eh bien non, Saint Joseph a eu ce trouble, il ne savait pas d'où venait l'enfant et il était très inquiet. Non pas qu'il mettait en doute la sainteté de la Sainte Vierge, il savait bien que la Sainte Vierge était sainte, mais il voyait aussi la Sainte Vierge enceinte, donc il ne comprenait pas. Il y avait un mystère. Eh bien, il s'est dit, si je l'en renvoie publiquement comme la loi m'oblige de le faire, eh bien, je vais la diffamer. Je ne peux pas diffamer Notre-Dame, ce qui se comprend. Si je ne la renvoie pas, ben, j'obéis pas à la loi. Et donc, je pèche, parce que je dois obéir à la loi. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il était coincé, en quelque sorte, si on peut dire. Et ne sachant pas que faire, eh bien, il réfléchit et il trouve une solution, à savoir de la renvoyer, mais secrètement, afin d'obéir à la loi et d'éviter de la diffamer. Et ce n'est que lorsqu'il a trouvé la solution humaine à sa difficulté que l'ange lui apparaît et lui dit ce qu'il doit faire. Donc ça montre ici, vous voyez, qu'à un certain moment, le bon Dieu nous laisse dans le trouble. Et en ce moment-là, il ne s'agit pas d'attendre les bras croisés que ça se passe en disant, bon ben le bon Dieu, il interviendra, il est bien intervenu pour Saint-Joseph. Eh bien non, Saint-Joseph, il a cherché d'abord la solution. Et c'est quand il a trouvé une solution au problème que le bon Dieu est intervenu pour lui dire ce qu'il avait à faire. C'est lorsque l'homme fait tout ce qui dépend de lui que Dieu intervient. Mais le bon Dieu permet que même les plus grands saints, et Saint-Joseph est le plus grand saint après la Sainte Vierge, à moins que ce ne soit Saint-Jean-Baptiste, c'est une question disputée, donc chacun son école, n'en parlons pas ici, mais donc en tout cas c'est l'un des plus grands saints au ciel. Et donc le bon Dieu a quand même permis cette souffrance en Saint-Joseph, et qui a duré des semaines, peut-être même des mois. Ensuite, autre exemple encore, eh bien, le manque de place pour accueillir notre Seigneur dans une hôtellerie à Noël. Là aussi, le choix de la crèche. On se dit, si le bon Dieu... Là, je veux montrer le décalage entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. On se dit, le bon Dieu vient sur la terre, bon, il faudrait quand même... Il y a un minimum quand même qu'il faut pour recevoir notre Seigneur. Quand on voit comment les bons fidèles tradis cherchent à... Quand il y a un prêtre qui vient manger chez eux, on cherche à bien le recevoir, dire, voilà, c'est notre Seigneur qui vient sur la terre, en personne, donc... On va quand même essayer de trouver quelque chose de mieux qu'une crèche, quand même, pour le recevoir. Eh bien, non, ça n'a pas été possible. C'était le dessein de Dieu. Donc le bon Dieu agit d'une façon qui nous paraît bien mystérieuse. Saint Luc, chapitre 2, verset 7. Ensuite, la nécessité de fuir en pleine nuit pour regagner l'Égypte. Donc on réveille Saint-Joseph en pleine nuit. Bon, Saint-Joseph sait aussi qui est l'enfant Jésus, il sait qui est Notre-Dame. Donc il se dit, bon, il aurait quand même pu attendre demain matin pour me faire en sorte au moins que je dorme au moins mes 8 heures de sommeil. C'est pas la peine de me réveiller au milieu de la nuit, parce que le bon Dieu étant tout puissant, il pourrait très bien faire que je parte demain matin et que je ne me fasse pas voir. C'est au milieu de la nuit qu'il a dû se lever. Et Saint-Joseph ne discute pas. Quand le bon Dieu parle, on obéit. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Fuis. C'est pas... Bon, tu peux partir si tu veux, hein. Quand tu veux, non, c'est fuit. Donc, nouvelle épreuve pour la Sainte Famille. Et puis alors, surtout, alors peut-être c'est l'un des plus grands exemples encore dans la Sainte Famille qui nous montre un peu ce mystère encore de ce décalage entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes, et là qui touche maintenant même non seulement Saint-Joseph, encore Saint-Joseph, mais aussi la Sainte Vierge. C'est la Père de l'enfant Jésus. Notre Seigneur qui est un enfant exemplaire. Donc on imagine, enfin, les rapports de la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus, un enfant, moi je savais qui est l'enfant Jésus bien sûr, mais un enfant très obéissant, très attachant, très docile, parfait. Et puis voilà qu'à l'âge de 12 ans, eh bien, il reste au temple. Et il fait souffrir sa mère, et il est Dieu, et il sait que sa mère souffre. Il voit sa mère souffrir, il la laisse souffrir. Il la laisse souffrir 3 jours et 3 nuits. Ou 2 nuits, enfin, je ne sais rien. Enfin, le temps était très long, en tout cas, pour la Sainte Vierge. Et ainsi que Saint-Joseph. Alors, l'angoisse de la Sainte Vierge, l'angoisse de Saint-Joseph. Et la Sainte Vierge, alors, ça c'est beau, c'est de voir, justement, dans l'Évangile, on a tout dans l'Évangile. Il n'y a pas beaucoup de détails qui sont donnés, mais le peu de détails qu'on trouve, c'est suffisant pour que l'on sache, enfin que l'on voit un petit peu ce que l'on a à connaître, enfin qu'on a suffisamment donc dans l'Évangile pour essayer de discerner un petit peu toute la vie de notre Seigneur. Et là donc, au bout de 3 jours, donc la Sainte Vierge et Saint Joseph retrouvent l'enfant Jésus. Et la Sainte Vierge donc va faire en quelque sorte un doux reproche, ce qui se comprend, hein. Enfin, c'est les mères de famille ici, je pense, comprennent bien. À notre Seigneur, mon enfant, pourquoi nous avez-vous fait cela? Voyez, votre père et moi, nous vous cherchions tout angoissés. Et on imagine avec quel accent la Sainte Vierge a dû prononcer ces paroles. Et notre Seigneur, on peut dire, notre Seigneur va s'excuser. Il va dire, oui, là, excusez-moi, j'aurais pas dû vous faire tant souffrir. Mais non, notre Seigneur ne s'excuse pas. Il n'est pas s'excusé, d'ailleurs, il n'a pas fait de faute. Mais il va répondre d'une façon mystérieuse. Il leur répondit, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Et la Sainte Écriture ajoute, mais eux ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. Ils ne comprirent pas. La Sainte Vierge n'a pas compris l'attitude de son Fils. Elle n'a pas compris l'attitude de notre Seigneur. Et nous, dans notre vie spirituelle, on voudrait pouvoir tout comprendre. Si la Sainte Vierge ne comprend pas notre Seigneur, comment voulons-nous, nous, dans nos épreuves ou dans notre vie de tous les jours, tout comprendre? Ce n'est pas possible. Mais la Sainte Écriture ajoute qu'elle conservait tout cela dans son cœur. Au moment où on est troublé, ce qu'il faut, c'est suspendre son jugement. C'est ce qu'a fait la Sainte Vierge. Elle n'a pas jugé son Fils. Elle s'est dit, il agit comme ça, c'est qu'il a ses raisons. Le bon Dieu a ses raisons. Donc s'il nous éprouve de telle manière, s'il nous envoie telle épreuve, c'est qu'il a ses raisons. Et en ce moment-là, la seule chose à faire, je crois, c'est ne pas chercher à comprendre. Après coup, souvent, le bon Dieu nous explique, enfin, nous fait comprendre, pas toujours d'ailleurs, mais souvent, il nous fait comprendre le motif de telle ou telle épreuve. Mais sur le moment, savoir suspendre son jugement. Donc, ne soyons pas surpris que notre Seigneur nous envoie des épreuves qui nous déroutent, puisqu'il a même agi comme ça vis-à-vis de Saint Joseph, qui l'aimait plus que nous, et vis-à-vis de sa mère, qui l'aimait aussi plus que nous. Donc maintenant, alors le décalage, alors ça va être non plus entre Saint Joseph, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus, mais des apôtres. Et là, j'ai pris quelques exemples, mais on peut prendre tout l'évangile, on verra le nombre de quiproquos qu'il y a entre les apôtres et notre Seigneur. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ou alors, sans que ce soit des quiproquos, les apôtres ne comprennent pas l'attitude de notre Seigneur. Donc dans la vie publique de notre Seigneur, le premier passage, c'est son baptême. Baptême de notre Seigneur, Saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 15. Saint Jean-Baptiste ne comprend pas pourquoi notre Seigneur désire être baptisé. Saint Jean-Baptiste pense que c'est bien sûr lui qui doit être baptisé. Alors apparaît Jésus qui vient de Galilée vers Jean au Jourdain pour se faire baptiser par lui. Mais Jean résistait et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous et vous venez vers moi? Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui se doit. » Alors Jean le laissa faire. Mais on voit donc cet étonnement de Saint Jean-Baptiste qui ne comprend pas l'attitude de notre Seigneur. En fait, notre Seigneur a voulu recevoir le baptême pour sanctifier les eaux du baptême et pour permettre donc à toutes les âmes d'être purifiées maintenant par cette eau salutaire. Mais sur le moment, en tout cas, les apôtres n'ont pas compris. Autre exemple encore, maintenant, la grandeur de notre Seigneur va apparaître en particulier, par exemple, au cours de ses miracles. Par exemple, au moment de la pêche miraculeuse. Saint Pierre, en observant donc cette pêche miraculeuse qui vient de se faire, n'en revient pas et il en est tout bouleversé. On remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus et dit « Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » C'est que la stupeur l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il venait de faire. Et Jésus dit à Simon « Ne crains rien, désormais ce sont des hommes que tu pêcheras. » Donc « Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Lorsque le bon Dieu, voyez, nous fait voir sa transcendance, eh bien, il nous fait voir aussi notre misère. Et c'est souvent le cas. Donc il ne faut pas s'étonner, par exemple, dans une retraite, parfois, justement, qu'on ait davantage conscience de sa misère, parce que c'est en fait notre Seigneur qui nous éclaire. Mais ensuite, en général, il nous rassure. Ne crains pas. Ne crains rien. Donc ayons confiance. Mais ça nous montre simplement saisir cette grandeur de notre Seigneur qui apparaît, quoi. Essayer de se mettre en présence de ce miracle, pour voir un peu comment cette grandeur de notre Seigneur est apparue dans l'Évangile. Et plus, je dirais, notre Seigneur nous fait voir l'intimité qu'il veut avoir avec nous, donc plus notre Seigneur apparaît proche de nous, et plus il nous déroute lorsqu'il n'agit pas, justement, comme on voudrait qu'il agisse. Mais c'est les deux aspects donc complémentaires de la personne et de notre Seigneur. Ensuite, dans les épreuves, la tempête apaisée. Donc là, il y a eu la panique avant et la panique après. Panique au moment de la tempête, hein. C'est pour ça qu'il réveille notre Seigneur. Et puis après, la panique en voyant le miracle, parce que là encore, ils n'en reviennent pas. Après le miracle, pris de frayeur et plein d'admiration, ils se dirent entre eux, qui est donc celui-là qui commande au vent et au flot et qui lui obéissent ? Saint Luc chapitre 8, verset 22 et suivant. Et là encore aussi, Saint Pierre ne comprend pas pourquoi notre Seigneur dort au milieu de la tempête, alors qu'il est Dieu. Il sait bien qu'il y a la tempête. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas quelque chose ? Eh bien non, il est prouvé. Le bon Dieu veut nous éprouver. Pour connaître la valeur d'un soldat, eh bien, ce n'est pas la caserne qu'on le connaît, c'est sur un champ de bataille. Alors le bon Dieu, de temps en temps, permet qu'on soit sur un champ de bataille. Et alors, dès qu'il nous envoie sur le champ de bataille, on se dit « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Ben, mon Dieu veut savoir un peu si on l'aime lui-même ou si on aime uniquement les consolations qu'il nous donne. Donc, ne soyons pas surpris des épreuves. Enfin, je dis ça autant pour moi, hein. Ça y est rassuré, hein. On est tous pareils, on sait que le bon Dieu nous éprouve, enfin, on nous l'a dit 100 000 fois, et puis, mais chaque fois on est quand même surpris, on se dit encore une tuile. Bon, ben, mais non, c'est que le bon Dieu nous aime. Cette grandeur de notre Seigneur va apparaître dans sa personne même à la transfiguration. J'aime beaucoup ce mystère de la transfiguration parce qu'il montre exactement ce que j'aurais voulu vous montrer ce soir. Dans ce mystère de la transfiguration, on voit exactement les deux aspects complémentaires de la personne de notre Seigneur. Notre Seigneur se montrant transfiguré, Saint Pierre goûte la douceur de la présence de notre Seigneur. Et il le dit, « Maître, qu'il est bon pour nous d'être ici. » Saint Pierre montre par là la douceur et l'intimité qu'il a ressentie en voyant notre Seigneur. « Qu'il est bon pour nous d'être ici. » Et juste après, donc, il y a une nuée qui va les envelopper Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, et une voix va entendre, là, c'est la voix de Dieu le Père, et en ce moment-là, ils vont être pris de frayeur. Une nuée les enveloppa de son ombre, et ils furent pris de frayeur en entrant dans cette nuée. Donc là, le bon Dieu a voulu montrer sa transcendance. Donc dans le même mystère, ces deux aspects sont apparus. Donc notre Seigneur est homme, en tant qu'homme, il est proche de nous, mais il ne cesse pas d'être Dieu. Et en tant que Dieu, eh bien, il agit d'une façon qui nous dépasse. Et c'est normal, parce qu'il est Dieu. Quelques exemples encore du décalage entre notre Seigneur et nous, dans ses paroles. Je vais essayer d'abréger. Dans le dialogue avec la Samaritaine. Donc, notre Seigneur donc, parle avec la Samaritaine. Ensuite, il avait envoyé les apôtres faire les courses. Et les apôtres reviennent. Ah, ça y est, on va pouvoir maintenant manger, quoi. On va se mettre à table. Et donc il le prie, donc les disciples le priaient, « Rabbi, mange, disait-il. » Donc il l'invite à manger. C'est normal, il lui demande d'aller faire les courses, donc il l'invite à prendre le repas. Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors là, ils ne comprennent pas. Sur quoi les disciples se disaient entre eux, « Est-ce qu'on lui aura apporté à manger ?» Jésus lui dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Donc notre Seigneur parle d'une nourriture spirituelle et eux, donc, ils interprètent d'une façon matérielle. Quant à la Samaritaine, elle oublie sa cruche. Vous savez qu'elle était venue pour chercher puiser de l'eau. Et donc l'évangéliste, donc c'est intéressant de voir les petits détails de l'évangile. La femme, laissant là sa cruche, s'en alla à la ville dire aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» Donc, notre Seigneur est tellement pris par sa mission qu'il en arrive à oublier le manger. Et la Samaritaine est tellement prise subjuguée par la personne de notre Seigneur qu'elle en arrive à oublier le boire. Et ensuite, ça c'est de Saint Augustin. Saint Augustin aime beaucoup les jeux de mots. Et ensuite, alors Saint Augustin ajoute ensuite, dans son commentaire, que la Samaritaine ne comprenait pas le langage de notre Seigneur aussi, parce qu'il y a eu deux aspects dans ce Dans cet entretien, il y a d'abord eu l'entretien avec la Samaritaine où il s'agissait d'eau, et ensuite avec les apôtres, il s'agit de nourriture. Et dans le passage avec l'eau, bien, c'était un petit peu la même chose. Notre Seigneur dit « Donne-moi à boire ». Et puis après, notre Seigneur dit « Je te donnerai à boire ». Alors, la Samaritaine ne comprend pas. Il me dit de lui donner à boire. Après, il dit que c'est lui qui va me donner à boire. Donc, et saint Augustin ajoute « Quoi d'étonnant si la femme ne comprenait rien à l'eau dont lui parlait Jésus, les disciples ne comprennent rien à la nourriture dont il leur parle ». Donc, si les disciples ne sont pas capables de comprendre notre Seigneur, on comprend que la Samaritaine a eu du mal aussi à saisir le langage de notre Seigneur. Donc, notre Seigneur agit toujours d'une façon un peu mystérieuse. Quand il annonce le mystère de la Sainte Eucharistie, quand le Seigneur annonce ses mystères, là aussi, eh bien, les disciples sont déroutés. La première fois que notre Seigneur a parlé du mystère de la Sainte Eucharistie, beaucoup de disciples ont abandonné notre Seigneur. Beaucoup de disciples ayant entendu dire « Cette parole est dure et qui peut l'écouter ?» Donc là, ils ont encore interprété d'une façon trop matérielle la nourriture. Quand le Seigneur a dit qu'il allait se donner à manger à nourriture, donc eux, ils imaginaient, je dirais, une mendication trop matérielle et non pas sacramentelle. Mais notre Seigneur veut la foi. Donc notre Seigneur n'a pas dit « Ah non, mais attendez, là, c'est le miracle de la transsubstantiation, vous comprenez ?» Donc il va y avoir donc changement de substance, mais avec persistance des accidents. Donc c'est sous la forme de petites hosties, comme ça, vous allez communier. Non, pas du tout. Notre Seigneur veut la foi. Donc il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc notre Seigneur veut la foi. Et croire, c'est accepter de ne pas voir. Donc face au mystère, vous voyez, du bon Dieu, il faut la foi. Et donc il faut savoir soumettre notre jugement à celui de Dieu. Si le bon Dieu me dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Et c'est terrible parce que nous sommes tous, plus ou moins, pris par cette atmosphère donc rationaliste dans laquelle nous avons baigné depuis notre plus tendre enfance, pour notre génération. Notre Seigneur va décrire là très clairement toutes les souffrances qu'il va subir. Et il le dit à 3 reprises, il va annoncer sa passion, et à 2 reprises, il va donner tous les détails. Donc c'est clair. Les 2 fois, l'évangéliste ajoute que les apôtres ne comprirent rien à ce que notre Seigneur venait de dire. Et ça montre aussi, vous voyez, qu'on a une oreille sélective. Quand on nous fait des compliments, en général, on comprend bien. Si au contraire, c'est un blâme. Comment ? Donc, il ne voulait pas du mystère de la croix. Donc, dans la mesure où on ne veut pas le mystère de la croix, on ne comprend pas. Et on est tous pareils, quoi. C'est comme ça. Vous voyez, le Fils de l'homme est à la veille d'être livré aux mains des hommes. Mais ils ne comprirent pas cette parole, car elle était voilée à leurs yeux pour qu'ils n'en puissent saisir le sens. Et ils craignaient de l'interroger sur cette question-là. Ils craignaient d'interroger, donc ils ne voulaient pas le savoir. Ils préfèrent ne pas savoir. Ils préfèrent ne pas avoir entendu. C'est comme pour nous quand on parle des mutations, vous voyez. Je préfère pas savoir. Sri Lanka, comment? C'est quelque chose, ça. Ouais. Enfin. Je suis en France, moi. Notre Seigneur, donc, parle clairement et ils ne comprennent pas. Ensuite, un peu plus tard, prenant les 12 auprès de lui, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir pour le Fils de l'homme tout ce qui a été écrit par les prophètes, car il sera livré aux païens, bafoué, outragé, on lui crachera dessus, et après l'avoir flagellé, on le mettra à mort, et le 3e jour, il se lèvera d'entre les morts. » Et eux ne saisirent rien de tout cela, c'était pour eux parole au sens caché, et ils ne comprenaient pas ce qui leur était dit. Ensuite, dans le comportement vis-à-vis des païens, eh bien, ce sera pareil. Dans le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des païens, ils auront encore, les apôtres, une attitude trop humaine. Ils ont accompli quelques miracles, ils commencent à être un peu sur deux. Et puis voilà qu'il y a un village de Samarie qui ne veut pas accueillir notre Seigneur. Alors eux, bon, ils font une petite proposition. On va voir comment le Seigneur va répondre. « Seigneur, voulez-vous que nous disions que le feu descend du ciel et les consume ?» Mais se retournant, il les reprit vertement et ils partirent pour un autre bourg. Ah, si on avait su, eh bien, on n'aurait rien dit là. Prochaine fois, on saura ce qu'il y a à faire. Saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. À la mort de Lazare, maintenant. Donc on arrive, là, c'est vers la fin de la vie de notre Seigneur. Saint Jean, chapitre 11, versets 11 à 15. Notre Seigneur qui dit, notre ami Lazare dort, mais je me mets en route pour le réveiller. Ses disciples lui dirent, ah, s'il dort, il guérira. Jésus avait parlé de sa mort, tandis que ses disciples pensaient qu'il s'agissait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Donc décalage encore entre le langage de notre Seigneur, enfin, un langage elliptique. Donc quand le Seigneur parfois nous parle de façon elliptique, ou cachée, eh bien ne soyons pas étonnés de ne pas tout comprendre. Et quand il disait qu'il dormait, c'était vrai parce qu'il allait le ressusciter 3 jours après. Et c'était vrai aussi parce que le terme de cimetière, étymologiquement, signifie dortoir. Donc, c'est le... Ben oui, au cimetière, on dort. Enfin, j'espère, enfin, les justes dorment du sommeil du juste. Jusqu'au grand matin de l'éternité et du jugement dernier. Où là, on sera tous réveillés à l'heure. Et tous bien fidèles à l'appel de la trompette, hein, et pas de problème. Ah, j'ai pas entendu. Non, il n'y a pas de problème. On l'entendra tous, même les sourds. Le soir du jeudi saint encore, vous voyez, ça fait 3 ans maintenant que notre Seigneur est avec les apôtres. 3 ans donc qu'ils ont pu l'approcher. Et 3 ans qu'ils devraient mieux saisir les 2 aspects que j'ai voulu vous faire saisir ce soir. Mais non, ils ne saisissent toujours pas. Saint-Pierre ne comprend pas que notre Seigneur s'abaisse jusqu'à lui laver les pieds. Saint-Pierre, qui avait un tempérament primesautier, ça démarre au quart de tour, mais il se faisait avoir à tous les coups. Enfin, jusqu'à sa trahison. Après, il était beaucoup plus modeste. Jésus vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Quoi, vous, Seigneur, me lavez les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jamais vous ne me laverez les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre s'écria alors, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Vous voyez, il n'est pas forcément le sens de la mesure au départ. Et on comprend que Saint-Pierre n'est pas compris, parce que c'est sûr que nous, on aurait peut-être réagi pareil. C'est vrai que notre Seigneur qui s'abaisse comme ça jusqu'à laver les pieds de ses apôtres. Mais malgré tout, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le bon Dieu veut nous faire sentir sa grandeur, il faut savoir lever le pied et ne pas trop insister, quoi. Ouais. Ce côté primesautier de Saint-Pierre, c'était vu par exemple sur les eaux. Donc il s'élance sur les eaux, donc il voit notre Seigneur sur l'eau. Ah, je peux aller vous rejoindre ? Oui, pas de problème. Donc il se met à y aller. Et puis après, à un moment donné, grosse vague, il commence à paniquer. Et là, donc je péris, Seigneur, venez à mon secours. Et notre Seigneur veut lui reprocher ensuite encore d'avoir manqué de foi. Donc il y a toujours ce manque de mesure. Ou encore au moment de la Passion, il a dit qu'il ne trahirait pas. Notre Seigneur, donc le soir du jeudi saint, finalement, vous savez qu'il a trahi. Mais même quand on arrête notre Seigneur, le réflexe, il sort son épée, paf, il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Mais quelque temps après, il prendra la fuite. Donc par là, je pense, notre Seigneur a voulu nous montrer eh bien, la nécessité pour nous d'essayer de dominer, voyez, les défauts de notre tempérament. Ne pas agir d'une façon trop naturelle ou trop spontanée. Réfléchir avant d'agir. Et par contre, vous voyez, après la résurrection, ça c'est à la fin de l'évangile de Saint Jean, quand on va interroger, notre Seigneur va interroger Saint Pierre pour savoir s'il l'aime plus que les autres, hein. Alors que plusieurs fois, donc, il se disputait pour savoir qui aurait la première place, et donc Saint Pierre aurait pu dire, oui, Seigneur, vous savez que je vous aime plus que les autres. Mais non, Saint Pierre, il dit simplement, oh, Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime, et il n'ose pas se comparer aux autres. Donc il est devenu beaucoup plus humble, hein. Voilà, bon, il faut que je conclue. Excusez-moi. Philippe qui l'interroge sur le Père, donc ça c'est encore le soir du jeudi saint. Donc notre Seigneur n'arrêtait pas vers la fin de sa vie à parler du Père. Il disait toujours, le Père et moi nous sommes un, j'accomplis la volonté du Père. Donc il parlait toujours du Père. Et donc Philippe a compris que c'était le Père, c'est quelque chose de très important. Donc il dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Il a compris que le Père, c'était tout. Mais il n'a pas compris que notre Seigneur était présent dans son Père. Et que le Père était présent en lui. Et notre Seigneur va lui faire le reproche ici. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Philippe, qui me voit, voit aussi mon Père. » Donc on voit le doux reproche de notre Seigneur pour montrer enfin, qu'il est Dieu. Et puis même après la résurrection encore, on va retrouver ce décalage chez les disciples d'Emmaüs, par exemple, qui sont découragés. Ils croyaient vraiment en lui, et puis après la résurrection, bah, ils se disent, ça y est, c'est fini, parce qu'ils n'ont pas vu ressusciter encore. Et il est là près d'eux, finalement, sans qu'ils le sachent. Et notre Seigneur, là encore, va leur reprocher leur manque de foi. Ô gens sans intelligence, esprit lent à croire tout ce qu'on a annoncé les prophètes, vous voyez. Et on voit toujours, notre Seigneur veut la foi. Il reproche toujours, quand on doute au moment de l'épreuve, notre Seigneur le reproche. Donc, il faut garder la foi, et croire, c'est accepter de ne pas voir. Et alors, à ce moment-là, donc, notre Seigneur va expliquer maintenant aux disciples d'Emmaüs la raison des épreuves. Et puis enfin, alors, même après la résurrection, ce sera encore un dernier exemple. Eux s'étant réunis de lui demander, donc les apôtres qui se réunissent et qui posent la question à notre Seigneur, au moment d'une apparition de notre Seigneur. Seigneur, est-ce maintenant que vous allez rétablir sur le royaume d'Israël? Donc ils avaient encore l'idée d'un Messie temporel, même après la résurrection. Alors que notre Seigneur avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde, enfin, il avait beaucoup insisté sur le caractère spirituel de son royaume. Et, mais tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, eh bien... Donc jusqu'à la Pentecôte, ils étaient en décalage avec notre Seigneur. Et ça montre aussi, vous voyez, que c'est important de prier l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire. Tant qu'on sera pris par notre propre intelligence humaine, on sera dans l'obscurité. Seul le Saint-Esprit peut nous éclairer. Donc essayez après de faire des applications pratiques de ce que je viens de vous dire, parce que je crois que c'est important pour la vie spirituelle, enfin pour toute la vie finalement. De rechercher cette intimité que notre Seigneur veut avoir avec nous, c'est un des aspects, parce que notre Seigneur veut cette intimité avec nous. Et le moyen d'acquérir cette intimité, c'est de contempler son humanité et de méditer sur sa miséricorde. Et puis, deuxième aspect pratique, alors, notre Seigneur étant Dieu, veut nous manifester sa transcendance comme il l'a manifesté à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, aux apôtres et aux saints. Et donc, ne pas nous étonner de ne pas tout comprendre. Ne pas nous étonner des épreuves qui nous touchent, des épreuves qui touchent l'Église. Pourquoi ces épreuves? Combien de temps ça va durer? Et pourquoi telle épreuve plutôt que telle autre? Et pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Et donc, ne pas remettre tout en question à la moindre contrariété. Ne pas rentrer dans les pièges du démon qui insinue toujours le doute et le trouble dans notre âme. Donc, voilà. Donc on va brièvement confier tout cela au bon Dieu, à la chapelle.